Il est 19h, bienvenue sur Europe 1.
Je pense que c'est du 50-50. On s'attend à deux gros matchs.
Deux gros matchs. Le premier, c'est donc ce soir. Une affiche comme on les aime. Le PSG face au meilleur club du moment, le Bayern Munich. Quart de finale aller de la Ligue des Champions. Paris ne part pas favori, mais aura son mot à dire.
AstraZeneca, l'agence européenne du médicament, estime que la balance bénéfice-risque reste positive.
La France a débuté aujourd'hui la production des premiers vaccins sur son sol, en Eure-et-Loire. Il s'agit de doses de Pfizer. On vous expliquera comment, pourquoi et pour qui sont ces doses.
Le procureur de la République de Béziers vient de confirmer ce que ses proches redoutaient. Le corps retrouvé sous une dalle de béton dans l'Hérault est très probablement celui d'Aurélie Vaquier.
27 ans après le début du génocide au Rwanda qui a fait près d'un million de morts, Didier François reviendra sur ce rapport qui permet enfin de normaliser les relations entre Paris et Kigali. Et puis Catherine Deneuve, ses poules et le bon coin. Pour comprendre le rapport, il faudra rester jusqu'à la fin du journal.
C'est promis, on restera jusqu'à la fin du journal avec Anissa Haddadi qui nous a retrouvé des fortes gelées demain matin au programme. Non, j'allais dire, comme vous dites souvent, il va falloir gratter les pare-brises.
Oui, c'est ça exactement. Gratter les pare-brises, mettre des gants, bien se protéger, parce que demain ça baisse encore avec moins 8 à 5 degrés sur l'ensemble du pays. Mais dans l'après-midi, le thermomètre va remonter un petit peu grâce au soleil qui va bien briller, lui. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est le match de l'année pour les Parisiens. Quart de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG affronte le Bayern Munich, le tenant du titre en Allemagne.
Vous êtes déjà sur place, évidemment, en Bavière, Julien Froment. Alors on ne va pas se mentir, Paris ne part pas grand favori, mais finalement c'est peut-être une chance, non, d'être l'outsider.
Oui. Oui, bien sûr, on serait même tenté de dire au Paris Saint-Germain, oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce, car le PSG va se frotter à une équipe du Bayern Munich qui n'a plus perdu en Ligue des Champions depuis 2 ans, 19 matchs sans défaite. C'est tout simplement la référence européenne et mondiale. Mais le défenseur français du club bavarois, Benjamin Pavard, lui reste plutôt méfiant.
Je pense que c'est du 50-50. On s'attend à deux gros matchs face à une grande équipe. Voilà, la seule réponse à ça sur le terrain, il faudra être présent pendant ces deux matchs.
Voilà, car malgré les absents, le Paris Saint-Germain possède dans ses rangs deux cracks, Kylian Mbappé et Neymar. Le Français a mis 4 buts en 2 matchs au FC Barcelone lors du tour précédent. Quant au Brésilien, il est certes irrégulier, parfois agaçant, mais il est capable de faire la différence à lui seul. Son coéquipier et capitaine, Marquinhos.
Bon, Ney, je le connais depuis des bonnes années. On sait qu'il est un joueur très compétitif. C'est un grand joueur. Aujourd'hui il est très motivé. On a besoin de nos grands joueurs pour qu'on fasse un très bon match.
Neymar qui a d'ailleurs publié sur ses réseaux sociaux une photo d'un tatouage sur sa cuisse. On peut y lire « Les gens n'ont pas idée à quel point je suis obsédé par la victoire. Une obsession, bien évidemment, à convertir ce soir en acte contre le Bayern. »
Merci Julien Froment. On l'espère effectivement. En tout cas, on sera au rendez-vous, c'est promis, pour voir le tatouage de Neymar et pour suivre le match. Grande soirée foot dès 20h sur Europe 1 sous la houlette de Lionel Rousseau. Match en direct et en intégralité.
Chacun son truc, Isabelle. 19h02, oui, il y a bien un lien possible entre l'injection du vaccin AstraZeneca et de très rares cas de caillots sanguins. Confirmation cet après-midi de l'Agence européenne du médicament. Néanmoins, dit-elle, les bénéfices du vaccin l'emportent largement sur les risques.
Alors, comment faire de la pédagogie avec ce genre de message? Pas facile pour les médecins qui vont devoir expliquer à leurs patients, comme le reconnaît Jacques Battistoni. Il est le président du syndicat des médecins MG France.
On va faire en fait notre travail habituel. Quand on prescrit un médicament, surtout quand c'est un médicament nouveau, pour les patients, on leur explique les avantages et les inconvénients de ce médicament et ce que eux surtout peuvent en tirer à titre personnel comme avantages et inconvénients. Et avec des gens, par exemple, qui tolèrent mal certains médicaments, c'est une discussion qu'on est très habitué à avoir. Donc on va l'avoir avec le vaccin. On l'a déjà d'ailleurs depuis que le vaccin a été suspendu. On va leur expliquer que dans leur situation, ils ont un risque de présenter une maladie grave d'un côté, que le vaccin présente un risque exceptionnel de réaction, mais que le risque de maladie grave est bien supérieur au risque de réaction exceptionnelle et que le vaccin pour eux est beaucoup plus bénéfique que risqué.
Jacques Battistoni, le président du syndicat des médecins MG France, joint pour Europe 1 par Jean-Jacques Herry. On précise que de son côté, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, reconnaît que les caillots sanguins sont un phénomène très rare et que le lien est plausible, mais non confirmé. On attend maintenant les recommandations de la Haute Autorité de Santé.
Quelques minutes après cette conférence de presse de l'Agence européenne du médicament, le Royaume-Uni publiait des chiffres. 19 décès ont été constatés chez des personnes ayant reçu le vaccin AstraZeneca sur un total de 79 cas de caillots sanguins identifiés.
On rappelle que la Grande-Bretagne a massivement vacciné avec AstraZeneca, le Royaume-Uni où les autorités scientifiques recommandent désormais de limiter l'administration de ce vaccin aux plus de 30 ans. En France, pour l'instant, il est réservé aux plus de 55 ans.
Alors, à propos de vaccins, justement, une grande première. Depuis aujourd'hui, la France produit des doses sur son sol.
Oui, dans l'Eure-et-Loire, une première usine, l'usine de Delpharm, qui a commencé ce matin à produire du Pfizer BioNTech, Emmanuel Duteil.
Oui, hein, les vaccins sont arrivés dans de grands sacs prévus à cet effet en début de semaine sur le site de Delpharm. Ces vaccins ont été produits en Allemagne. C'est là-bas que se trouve l'usine de BioNTech, le partenaire de Pfizer. Ces vaccins sont de façon concrète maintenant mis en flacon en France. La France, qui ne va pas produire que des vaccins Pfizer, Recipharm, un autre sous-traitant, va produire d'ici quelques jours le vaccin de Moderna. Ça se passera cette fois en Indre-et-Loire. Fareva conditionnera pour sa part d'ici quelques semaines, a priori au plus tard début juin, celui de CureVac. Le vaccin n'est toujours pas approuvé dans l'Union européenne. Enfin, Sanofi, qui tente toujours de trouver son propre vaccin, produira cette fois à compter de cet été près de Lyon des doses pour Johnson & Johnson. Alors, si on ne compte pas le possible vaccin de Sanofi, la France espère, selon Bercy, produire sur son sol 250 millions de doses d'ici à la fin de l'année. Mais attention, produire en France ne veut pas dire réserver aux Français toutes ces doses. Elles seront distribuées selon les quotas européens. Et au titre de ces quotas, la France reçoit 15% des doses produites en Europe.
Précision signée Emmanuel Duteil.
Dans l'actualité également, on en parlait à 18h, ce corps découvert sous une dalle de béton à Bédarieux dans l'Hérault.
Le procureur de la République de Béziers, Raphaël Ballan, vient de donner des précisions sur cette macabre découverte qui laisse peu de place au doute.
Ce mercredi 7 avril, l'instruction a connu une évolution très importante puisque le magistrat instructeur avait ordonné une fouille minutieuse du domicile du couple et ses recherches ont permis de découvrir dans la matinée un corps dissimulé sous une dalle de béton. Il s'agit très probablement du corps d'Aurélie Vaquier en raison de la présence d'un tatouage très reconnaissable et d'un piercing.
La jeune femme qui avait disparu depuis fin janvier, le procureur de la République de Béziers, Raphaël Ballan, il était au micro européen de Benjamin Péter. Son mari était placé en garde à vue. Notez que les fouilles se poursuivent dans les Ardennes pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin sur les indications de Monique Olivier, l'ex-compagne de Michel Fourniret. Et puis la mosquée de Pantin, qui avait été fermée en octobre après l'assassinat de Samuel Paty, rouvrira vendredi avec à sa tête un nouvel imam et un nouveau recteur.
Europe 1. Julien Bugier.
Une courte pause et on se retrouve dans quelques secondes. 27 ans après le début du génocide au Rwanda, on reviendra sur ce rapport qui permet de normaliser enfin les relations entre Paris et Kigali.
Et puis le grand retour de Catherine Deneuve, mais pas au cinéma.
A tout de suite. C'était il y a 27 ans, le génocide des Tutsis au Rwanda. Aujourd'hui, le président du pays, Paul Kagame, salue le rapport commandé à des historiens par le président français Emmanuel Macron.
Un rapport qui reconnaît la responsabilité écrasante de la France dans ce génocide. On en parle avec notre spécialiste des affaires internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
On est 27 ans, jour pour jour, donc après le début de ce massacre de masse, dernier génocide du XXe siècle.
Oui, terrible date anniversaire, puisque c'est effectivement le 7 avril 1994, au petit matin, que les miliciens extrémistes Hutus ont déclenché cette tentative d'éradication génocidaire. Près d'un million de victimes Tutsis assassinées en à peine trois mois, souvent à la machette et à la sagaie, ce qui pouvait laisser croire à une irruption de violence spontanée après l'assassinat du président Juvénal Habyarimana, dont l'avion avait été abattu la veille. Mais en fait, pas du tout. Ce génocide a bien été réalisé avec des moyens primitifs, mais son organisation, en revanche, a été longuement mûrie, planifiée par les franges les plus radicales du gouvernement rwandais, alors qu'il était soutenu sans réserve par la France. Et cela, tous les documents le prouvent. L'Élysée savait parfaitement ce qui se préparait au Rwanda et les 14 historiens de la commission désignée par Emmanuel Macron en font un constat unanime. Ils ont eu accès aux comptes rendus les plus confidentiels de l'armée, des affaires étrangères et même des renseignements qui décrivaient la mise en place par le pouvoir extrémiste Hutu d'un plan de nettoyage ethnique systématique avec des listes de Tutsis à éliminer, dressées par les bourgmestres dans les plus petits villages et jusque dans les zones les plus reculées du pays. Tous les signaux étaient au rouge, mais François Mitterrand a fait le choix politique alors d'ignorer les avertissements de ses services.
Et ce soir, dans une longue tribune au journal Le Monde, c'est Alain Juppé qui fait son mea culpa.
Exactement, le ministre des Affaires étrangères sous la cohabitation de 1993 à 1995. Eh bien, il a enfin cette élégance d'assumer sa responsabilité politique tout en saluant le courage des soldats français qui, sur le terrain pendant l'opération Turquoise, ont tenté de sauver les derniers rescapés de l'extermination. Mais il dresse aussi ce constat terrible sur l'aveuglement des autorités françaises de l'époque, je le cite. « Nous n'avons pas compris qu'un génocide ne pouvait supporter les demi-mesures. Pendant près de 30 ans, j'ai porté cette blessure de n'avoir pas réussi à empêcher cette terreur. »
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h. Et je précise qu'on y reviendra à ce génocide du Rwanda tout à l'heure avec nos archives dans Le Jour Où à 19h50.
Et vous l'évoquiez ici même hier soir, Didier François, la rencontre entre le président turc, la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen. Objectif, tenter de renouer les relations après des années de tension. Eh bien, c'est raté. À cette réunion, ils étaient trois. Il n'y avait que deux fauteuils. Ursula von der Leyen a été placée en retrait sur un divan. Un affront qui fait beaucoup de bruit. Rien à Bruxelles et même au-delà.
Un clin d'œil pour terminer, Isabelle, le retour à l'écran de Catherine Deneuve.
Oui, c'est sa première apparition depuis son accident vasculaire en 2019. La star rayonnante apparaît non pas dans un film, mais dans une pub pour Le Bon Coin, Diane Chénouda.
Et oui, un pull vert éclatant qui met en valeur son teint et sa blondeur. Oui, elle est rayonnante, Catherine Deneuve, dans ce clip assez savoureux hein, qu'elle vient de tourner pour les 15 ans du Bon Coin. On sait que Deneuve passe son temps à chiner, à écumer les brocantes et on la découvre ici, telle qu'elle est dans la vie, collectionneuse de poules en céramique.
Parce qu'on trouve tout sur Le Bon Coin.
Oui, des appartements.
Un job.
Oui, des poules.
Des ?
Mais des poules. En céramique, des poules en porcelaine. Je les collectionne.
Wow.
Regardez cette petite-là. Elle est arrivée hier, Le Bon Coin, de Nantes.
Tu crois que c'est vendeur une poule? Oublie, tais-toi.
Le Bon Coin a 15 ans. Et bonne nouvelle, comme Catherine Deneuve, un Français sur deux y trouve son bonheur.
Et en 15 ans, ça en fait des poules.
Le film fait déjà des dizaines de milliers de vues sur YouTube. Alors, la passion de Catherine Deneuve pour les poules remonte à plusieurs années déjà. Comme le montre cette petite vidéo prise lors d'un essayage chez Yves Saint Laurent, la star se lamentait d'avoir perdu les poules de son jardin.
J'ai perdu toutes mes poules, un renard a dû
manger. Ça, ah oui, un petit peu.
Ah, ça,
oui.
Oui. C'était très belle. J'avais des poules soie, des poules de houdan, voilà. Coucou de reine, des brahmanes. J'avais une belle
époque. Oui, on sent que ça.
C'est quand même très très drôle. En fait, quand la. À la pub hein, pour Le Bon Coin. On y revient, eh bien c'est à coup sûr pour Deneuve, évidemment, la poule aux œufs d'or.
En tout cas, visiblement, elle est en forme. Ah, merci pour cette belle chute, Diane Chénouda.
Merci Diane, merci Isabelle. On vous retrouve demain, évidemment, à partir de 18h dans Europe Soir. Un coup d'œil à la météo avec Anissa Haddadi. Le soleil s'impose après une matinée glaciale.
Oui, on aura la chair de poule, tiens, demain matin, ça vous pouvez la noter, hop, et voilà, c'est cadeau. Effectivement, il va faire très froid, vous le disiez, une matinée glaciale avec moins 8 degrés du côté du Puy-en-Velay, moins 6 à Manosque et Clermont-Ferrand, moins 5 pour Aurillac, moins 4 à Rodez, moins 2 à Caen et Colmar, un petit degré pour Paris et Bordeaux et 5 à Nice. Ça, c'est pour le matin. Dans l'après-midi, le soleil va effectivement rayonner partout. On a toujours un petit peu de Mistral et de Tramontane dans le sud, mais c'est vrai que le ciel est très dégagé demain après-midi. Et du coup, le thermomètre va remonter un peu, surtout dans le sud. Alors, on aura 12 degrés à Paris, 15 à Saint-Étienne, 18 à Nîmes et Limoges, c'est déjà un peu mieux qu'aujourd'hui, 20 à Bordeaux et jusqu'à 22 à Biarritz dans le sud-ouest. Sous le soleil, profitez-en, ça ne va pas durer.
Merci, merci Anissa, on vous retrouve demain également à partir de 18h.
Bonne soirée.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.